Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 2 Khordad, 1402 du calendrier iranien, 23 mai 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. L'Iran et l'Indonésie, unis contre l'unilatéralisme, soutiennent une paix durable dans la région, selon le président iranien Ebrahim Raisi. Le président iranien en Indonésie pour renforcer les liens de l'Iran avec l'Asie. La gouverneure de la Banque centrale de Russie en Iran. Et un cessez-le-feu d'une semaine, convenu par les factions belligérantes au Soudan, est entré en vigueur. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi est arrivé à Jakarta, la capitale indonésienne, pour une visite officielle de 2 jours visant à renforcer les relations de la République islamique d'Iran avec les pays asiatiques dans les domaines politiques et économiques. À la tête d'une délégation politique et économique de haut rang, le président iranien Ebrahim Raisi a été officiellement accueilli par son homologue indonésien Joko Widodo peu après son arrivée mardi 23 mai. Raisi et Widodo ont eu des entretiens au palais présidentiel, tandis que les délégations de haut niveau des deux pays ont mené des négociations. 11 documents et accords ont été signés. La visite d'État du président iranien à Jakarta marque un tournant dans les relations bilatérales qui ouvrira un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. La gouverneure de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina, est arrivée lundi 22 mai à Téhéran, ayant pour but de participer à la 51e Union asiatique de compensation qui sera organisée les 23 et 24 mai en présence de 9 membres de cette union, ainsi que la Russie, membre superviseur, l'Afghanistan, la Biélorussie et la Banque islamique de développement. En outre, au cours de son voyage de plusieurs jours à Téhéran, la gouverneure de la Banque centrale de Russie prévoit d'avoir des entretiens bilatéraux avec le gouverneur de la Banque centrale d'Iran concernant les accords et les négociations conclues l'année dernière. L'Union asiatique de compensation a été créée dans les années 1970 dans le but de réduire le besoin et la dépendance vis-à-vis des devises mondiales en particulier le dollar américain, et la dédollarisation est l'objectif principal du 20e sommet de cette union. L'Iran constitue un pilier solide, un support pour la résistance palestinienne et l'axe de la résistance dans la lutte principale contre l'ennemi sioniste et l'hégémonie américaine, a affirmé le chef du bureau politique du mouvement de résistance islamique de Palestine, Hamas. Selon l'agence de presse Fars News, les propos de lundi soir d'Ismaïl Haniyeh font écho aux déclarations du général Rouhani, commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique. Les combattants de Quds, de la Cisjordanie et de toute la terre de la Palestine ont prouvé que la victoire est proche, avait affirmé le général Ismaïl Rouhani dans un message à l'adresse des groupes de résistance palestiniens le 14 mai dernier. Ce message a été publié après la récente bataille de 5 jours menée par le mouvement de résistance palestinien djihad islamique contre l'ennemi sioniste, à laquelle la résistance palestinienne a donné le nom de la vengeance des libres. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a remis en question, dans des tweets séparés, le double langage de l'Occident envers la question des droits de l'homme en Iran. L'Iran a condamné la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, pour ses commentaires sur les droits de l'homme en Iran, réitérant la complicité de Berlin dans les crimes de guerre de l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein pendant la guerre imposée à l'Iran dans les années 1980. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fait ses commentaires dans un tweet mardi 23 mai, un jour après que Baerbock a déclaré que l'Union européenne n'accepte pas les violations présumées des droits de l'homme par l'Iran. Il est très peu probable que la ministre allemande des Affaires étrangères ne soit pas consciente de la mentalité du peuple iranien envers les gaz toxiques et les substances chimiques et de leur lien avec le gouvernement allemand, a écrit Nasser Kanani. Un cessez-le-feu d'une semaine convenu par les factions belligérantes au Soudan est entré en vigueur quelques heures après que l'armée a mené de lourdes frappes aériennes à travers la capitale Khartoum contre les positions des forces paramilitaires de soutien rapide. Le cessez-le-feu, convenu samedi après plusieurs semaines de bataille entre les forces rivales du pays, est entré en vigueur le lundi 22 mai. Des témoins oculaires ont toutefois signalé de violents bombardements dans l'est de la capitale, Khartoum, les dernières photos montrant une épaisse fumée noire s'élevant dans le ciel. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le syndicat des médecins soudanais a annoncé les affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide se poursuivent pour le 34e jour consécutif et ont entraîné une augmentation du nombre de victimes et de blessés. L'organisation non gouvernementale a noté dans son communiqué que le nombre de morts civiles depuis le début des conflits a atteint 863 personnes et le nombre de blessés a atteint 3531 personnes. Le conflit dans ce pays d'Afrique du Nord représente une lutte de pouvoir entre le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, et son ancien adjoint, Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de Hemeti, qui dirige les forces de soutien rapide. Les forces de soutien rapide sont adeptes des combats au sol, tandis que l'armée s'est largement appuyée sur les frappes aériennes et les tirs d'artillerie lourdes. Avant la concrétisation du cessez-le-feu, les forces de soutien rapide ont diffusé un message audio de Dagalo déclarant que les forces ne reculeraient pas tant qu'elles n'auraient pas mis fin à ce qu'il a décrit comme le coup d'État de l'armée. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. La République islamique d'Iran et l'Indonésie sont contre l'unilatéralisme et soutiennent une paix et une sécurité durable dans la région. Le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, a fait ses remarques lors d'un point de presse à l'aéroport Mehrabad de Téhéran lundi 22 mai, avant de quitter la capitale iranienne pour Jakarta, à la tête d'une délégation de haut rang pour une visite officielle à l'invitation de son homologue indonésien Joko Widodo. L'Indonésie est un pays important en Asie du Sud-Est et occupe une position importante dans les développements régionaux et internationaux, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi aux journalistes. En tant que pays musulman le plus peuplé du monde, l'Indonésie entretient des relations profondes et de longue date avec la République islamique d'Iran, a-t-il déclaré, et a ajouté qu'outre les relations diplomatiques entre les deux pays depuis 70 ans, les liens culturels et historiques profonds ont également été établis entre les deux nations. Évoquant l'importance des relations économiques et commerciales entre l'Indonésie et la République islamique d'Iran, le président iranien a souligné la nécessité de les promouvoir de plus en plus. Ebrahim Raisi a également fait part de la signature imminente de protocoles d'accord dans les domaines économiques, commercial, douanier, de transit, culturel et sanitaire lors de sa visite de deux jours dans ce pays d'Asie du Sud-Est. La République islamique d'Iran et l'Indonésie ont des points de vue communs sur les questions régionales et internationales. Les deux pays sont contre l'unilatéralisme et en faveur d'une paix et d'une sécurité durable dans la région. Et ces points de vue communs rapprochent les deux nations, a noté le président de la République islamique d'Iran. Soulignant la politique de promotion des relations de voisinage de la République islamique d'Iran, le président Ebrahim Raisi a exprimé l'espoir que sa visite serait un tournant dans le développement des relations entre Téhéran et Jakarta. En vertu des accords, Téhéran et Jakarta amélioreront la coopération dans divers domaines, y compris le commerce préférentiel, l'annulation des visas, les échanges culturels, la supervision des produits pharmaceutiques, la science et la technologie, ainsi que le pétrole et le gaz. Les accords ont été signés par les ministres iraniens des Affaires étrangères, des technologies de l'information et des communications, du pétrole, le vice-président des affaires scientifiques et technologiques et le vice-ministre de l'Indonésie, des mines et du commerce, avec leurs homologues indonésiens. Les accords ont été signés en présence des présidents iraniens et indonésiens. Les négociations entre les deux pays englobent un large éventail de sujets bilatéraux, régionaux et internationaux et visent à approfondir la coopération dans divers domaines, notamment les domaines politiques, économiques, commerciaux énergétique, scientifique et technologique, culturel, parlementaire et de sécurité. La République islamique d'Iran et l'Indonésie entretiennent des relations tendues avec les États-Unis et cherchent à renforcer les liens politiques et économiques dans un contexte de tensions géopolitiques et mondiales accrues. Selon le ministère indonésien du Commerce, le voyage du président Ebrahim Raisi dans le pays à majorité musulmane devrait améliorer les relations mutuelles alors que Téhéran cherche des alternatives à la domination occidentale des affaires internationales dirigée par les États-Unis et une coopération accrue après que les deux pays ont conclu des négociations sur le commerce préférentiel entre l'Indonésie et la République islamique d'Iran. Les données du ministère ont montré que le commerce entre l'Indonésie et la République islamique d'Iran s'élevait à 54,1 millions de dollars entre janvier et mars, tandis que la valeur du commerce bilatéral a augmenté l'année dernière de plus de 23% pour atteindre 257,2 millions de dollars.
Bonjour à tous. Le sujet du jour étant le tour du monde réalisé par la flotte iranienne. Donc c'est le sujet. Nous avons donc fait venir deux invités que nous recevrons d'une manière virtuelle. Maître André Chami, juriste international, et Monsieur Luc Michel, notre géopoliticien. Tout de suite, je vous propose donc notre reportage afin de faire le point sur le sujet.
La cérémonie d'accueil officielle de la 86e flottille de l'armée de la République islamique d'Iran, composée du destroyer Dena et du navire de guerre Makran, tous deux de fabrication locale, s'est tenue ce dimanche 21 mai dans le port de Bandar Abbas au sud de l'Iran. Les deux navires sont entrés samedi 20 mai dans la ville portuaire après avoir parcouru 65 000 km autour du globe et traversé les océans Indien, Pacifique et Atlantique. Le chef d'état-major des forces armées de la République islamique d'Iran, le général Mohammad Bagheri, le commandant général de l'armée de la République islamique d'Iran, le général Abdul Rahim Moussavi et les familles des commandants et du personnel des deux navires participent à la cérémonie. Lors de cette cérémonie, le chef d'état-major des forces armées iraniennes a félicité le retour réussi de la 86e flottille de la marine en Iran après un voyage historique en haute mer, soulignant que cette réalisation exceptionnelle avait été obtenue malgré les sanctions imposées par l'Occident. Les prouesses maritimes comptent parmi les facteurs les plus importants de la puissance militaire de notre pays. Nous ne manquons de rien pour atteindre un tel idéal et sommes dotés d'industries locales et d'expertise à cette fin. Nos courageux commandants et marins entreprennent une mission navale vaillamment et sans peur, a déclaré Bagheri. La 86e flottille de la marine a rempli une mission historique. Même les grands pays du monde n'ont pas le courage d'entreprendre une tâche aussi formidable. La marine iranienne dépendante du destroyer Dena et du navire de base avancée Makran a participé à la mission au plus fort des sanctions, a-t-il souligné. Par ailleurs, le commandant de la marine de l'armée, le contre-amiral Shahram Irani a fait savoir que les jeunes membres de la marine iranienne avaient perfectionné leurs connaissances techniques et technologiques grâce à cette mission maritime de 213 jours dans les eaux internationales, sur ordre du commandant en chef des forces armées, l'ayatollah Ali Khamenei, une mission destinée à envoyer un message de paix et d'amitié aux pays du monde entier et à montrer que les Iraniens n'oublieraient jamais les Chines devant les sanctions occidentales. La marine est en marche vers une destinée révolutionnaire, un développement global et durable, et vers le renforcement des liens avec les nations du monde, a-t-il déclaré. L'Iran a accueilli avec fierté sa flottille de navires de guerre d'Ena et Makran, construits localement lors d'une cérémonie officielle à l'aide de hauts gradés des forces armées et des familles des membres de l'équipage. Cette cérémonie souligne l'importance de la marine pour l'Iran et illustre sa position en tant que puissance militaire régionale.
Donc maintenant, nous allons recevoir nos invités. Nous commençons par Maître André Chamy. Bonjour Maître André Chamy, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour à vous tous, à toute l'équipe et particulièrement à Monsieur Michel.
Merci Maître. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc notre deuxième invité est Monsieur Luc Michel, notre géopoliticien et expert de la chaîne. Bonjour Monsieur Luc Michel.
Bonjour à vous et à votre équipe et bien sûr à mon collègue Maître Chamy.
Alors le sujet du débat d'aujourd'hui est un sujet positif, ça change de certains autres jours, notamment après cette dernière semaine avec la Palestine. Alors Maître André Chamy, hier a été un jour de gloire pour les Iraniens, pour l'armée iranienne, notamment la marine iranienne, car ils ont réalisé un tour du monde. Quel est l'impact finalement d'un point de vue international d'un tour du monde et pourquoi les Iraniens, selon vous, se félicitent de la situation ?
Ben, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est d'abord l'exploit technique, parce que quand vous sortez avec une flotte telle que celle déployée par la République islamique d'Iran pour aller en haute mer et franchir plusieurs océans en même temps. Évidemment, il s'agit d'un exploit technique, et surtout par rapport à ce qu'on appelle les dangers auxquels cette flotte peut être confrontée. Parce que les ennemis ne manquent pas, et les choses trappent, si j'ose dire, pourraient être à tout moment mises en place par ces fameux ennemis pour justement essayer de faire trébucher la flotte iranienne, et afin que de nouvelles expériences comme celle-ci ne se reproduisent. Mais en même temps, il y a un aspect qui me paraît important, c'est le déploiement de la stratégie militaire iranienne, parce que là, nous sommes passés à une stratégie que j'appellerais offensive, c'est-à-dire ce n'est plus une stratégie uniquement de défense, mais c'est une stratégie qui déploie des moyens à travers le monde afin de nouer des relations stratégiques à tout point de vue, rassurer ses partenaires et montrer que l'Iran n'est pas enfermé dans ses frontières, en tout cas dans ses eaux territoriales, et ce ne sont pas les contraintes que l'on essaye de lui imposer par ce que j'appellerais moi avec mon verbe personnel, par l'axe du mal. Et évidemment, cet axe du mal n'arrive pas à entamer en quelque sorte la volonté des politiques déployées en Iran, mais en même temps du peuple iranien, qui ne veut pas rester à l'intérieur de ses frontières. C'est un peuple ouvert, c'est un peuple qui a des capacités de se déployer à travers le monde. Et là, vous avez la démonstration. Mais dernier mot, et on aura peut-être l'occasion de le dire un peu plus loin, il y a une stratégie globale iranienne qui a deux visées, si j'ose dire. La première, c'est d'abord d'avoir une stratégie de souveraineté, c'est-à-dire de montrer que la souveraineté iranienne s'exerce quels que soient les ennemis qui l'entourent ou ceux qui lui cherchent des problèmes. Mais il y a également cette stratégie qui est au service d'une politique et d'une vision du monde. Cette stratégie qui est déployée par la République islamique d'Iran à travers sa force militaire, mais pas que, évidemment, c'est au service d'une stratégie politique. C'est-à-dire là où des intérêts politiques iraniens se trouvent, la force iranienne se déploie et apporte son soutien et son concours à ses partenaires, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Ce sont les points qui que je pourrais développer pour l'instant, mais il y a encore d'autres choses qu'on pourrait évoquer sur la question militaire et la capacité militaire et son utilisation à bon escient par la politique iranienne et par la stratégie iranienne.
Merci, Maître André Chami. Alors, comme vous l'avez vous-même indiqué, Maître André Chami, donc on parle notamment de la souveraineté, de la protection souveraine au niveau terrestre, au niveau aérien et au niveau donc maritime. C'est l'enjeu, en fait, donc de la situation. Déjà, avec les radars, les Iraniens avaient réussi à protéger d'un point de vue terrestre et aérien leur souveraineté. Il ne restait plus que maritime. Et en faisant donc ce tour du monde, ils ont prouvé qu'ils étaient capables également de protéger leur territoire maritime. Monsieur Luc Michel, vous savez, vous-même étant expert géopoliticien, que dans la région du Moyen-Orient, au Liban, on a vu souvent la souveraineté des pays être bafouée. Rien que pour rappel, les multiples avions qui survolent le Liban, qui survolent la Libye, moins depuis l'implication des Russes sur le territoire. Mais voilà, est-ce que c'est aussi l'enjeu en fait de l'Iran en disant « vous ne serez plus capable d'attaquer nos territoires ?»
Mais l'Iran est en train d'émerger comme une grande puissance militaire capable de se projeter sur toutes les mers du globe. On se souvient que les adversaires de l'Iran, ce sont des thalassocraties des puissances maritimes. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, elles se basent sur une domination maritime. Et c'est cette domination qui est contestée. Il y a eu des manœuvres dans l'océan Atlantique, en marge de l'Amérique avec le Nicaragua. Il y a eu des manœuvres avec la Chine, il y a eu des manœuvres avec la Russie. L'Iran aujourd'hui en compagnie de la Russie, qui est son principal partenaire militaire, elle est déployée dans le golfe de Guinée, dans l'océan Indien, et elle contrôle les voies maritimes d'approvisionnement de l'Occident en cas de troisième guerre mondiale. C'est cela qui est décisif. Comme l'a dit Maître Chami, on est passé une stratégie offensive.
Merci, Monsieur le Cuchel. Maître André Chami, donc, comme je l'ai indiqué, par rapport aux territoires occupés, est-ce que ça va être une aide pour la résistance? Parce que bon, l'Iran peut maintenant protéger d'un point de vue terrestre, maritime et aérien son territoire. On sait, comme je l'ai indiqué, qu'il y a d'autres pays qui sont souvent, dont le territoire est souvent bafoué. Rien que pour rappeler ce qui s'est passé avec le Yémen, ils n'ont pas su protéger leurs ports. Le Liban, également au niveau aérien, est souvent attaqué, souvent doit subir les survols des avions étrangers, pour ne citer que l'antisioniste Israël. Est-ce que vous pensez que donc, ça va être un bien pour la région, notamment pour les pays qui n'ont pas la possibilité de protéger leur souveraineté maritime ou même aérienne?
Ah, il y a une volonté indiscutable de la part de la République islamique d'Iran. C'est ce que j'appelais sa stratégie politique mondiale, mais plus particulièrement régionale. Son déploiement est au service de cette stratégie. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai des alliances, par exemple, le déploiement terrestre en Syrie, le déploiement terrestre et avec la protection qui est assurée, par exemple, en Irak, tous ces déploiements-là ont été accompagnés d'une stratégie militaire, mais qui est au service d'une stratégie politique, c'est-à-dire avoir des alliances, avoir une projection territoriale afin de ce que j'appellerais, moi, assurer une zone qui va au-delà du territoire, parce que plus vous vous éloignez de votre territoire, plus votre projection est importante, plus votre rôle est important. Et évidemment, plus votre protection est importante, parce qu'avant de venir s'approcher de votre territoire, il faut d'abord qu'on essaie de si j'ose dire, de vous toucher dans les territoires que vous avez pu conquis d'une manière ou d'une autre, notamment par les alliances stratégiques et par le jeu de stratégie régionale et mondiale. Et nous y sommes. Là, évidemment, la question que vous posez est très délicate, mais en même temps, nous laisse présager probablement des exploits militaires, en tout état de cause, des menaces militaires pour les ennemis et de l'Iran, mais et de toute la région. vous avez cité l'antisionisme, il n'y a pas que. Évidemment, le jour où les alliés de l'Iran aurait à affronter, par exemple, l'entité sioniste, puisque c'est ça le danger qui aujourd'hui guette cette entité, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs fronts ouverts en même temps, c'est-à-dire le front palestinien, le front libanais et le front syrien, voire plus loin, c'est-à-dire qu'on commence à imaginer même des attaques éloignées depuis l'Irak. Même l'Algérie, l'autre fois l'armée algérienne a surpris tout le monde en disant qu'ils sont prêts à intervenir pour protéger Al-Aqsa. Toutes ces questions-là aujourd'hui se posent, et à ce moment-là, la question qui se pose par la même occasion, en tout cas dans le cadre de déploiement de forces, est-ce que l'Iran sera de la partie et comment? Et évidemment, un déploiement maritime permettrait indiscutablement de rapprocher davantage. Ce n'est pas que les missiles iraniens ne peuvent pas toucher le territoire occupé par l'entité sioniste, mais ça rapprocherait davantage, ça créerait également une zone supplémentaire de confrontation qui pourrait, selon les, si j'ose dire, ce qui se dit ou ce qui s'annonce, accélérerait la chute définitivement de l'entité sioniste. Nous sommes aujourd'hui, comme je l'ai eu l'occasion de l'exprimer, dans la perspective de se poser la question, non pas si la guerre va avoir lieu, c'est juste à quel moment cette guerre va avoir lieu et qui vont y participer, et évidemment quelle fin ça aurait cette guerre-là. Et la fin qui est annoncée, c'est vraisemblablement pour l'ensemble de la région, c'est une modification géographique globale, pour ne pas dire intégrale, et qui aboutirait à quelque chose qui est fondamentalement différent de ce qui existe actuellement.
Merci, Maître André Chalmé. Monsieur Luc Michel, c'est un vieux rêve de l'Iran d'avoir donc une force militaire maritime qui date même avant la révolution. Finalement, c'est la République islamique d'Iran qui a réalisé ce vieux rêve iranien. Il y a aussi un enjeu qui est également beaucoup plus commercial, beaucoup plus terre-à-terre concernant une forte marine iranienne, parce que l'une des raisons pour laquelle l'Iran avait du mal avec les sanctions, c'est l'échange de fournitures. Avec donc un tel déploiement, est-il possible donc aussi qu'au niveau commercial, ça améliore les chances des Iraniens de commercer avec les autres continents, Monsieur Luc Michel?
Écoutez, le principal enjeu de la domination maritime, ce sont la protection des voies commerciales. Aujourd'hui, nous passons d'une domination du bloc américain occidental, qui est une alliance de puissances maritimes, la France, la Grande-Bretagne, le Japon, l'Australie. Nous passons à un monde multipolaire dans lequel les puissances continentales eurasiatiques vont contester les occidentaux sur les mers du globe. Les Russes seront en 2050 présents sur les 6 océans du globe, comme du temps de l'amiral soviétique Gorchov, et aujourd'hui sont restés mal liés, c'est l'Iran, auquel le projet géopolitique maritime est évidemment un parallèle.
Merci, Monsieur Michel. Maître André Chalmé, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que, il est vrai qu'il y a des droits internationaux, mais à cause des sanctions américaines, ce droit n'était pas respecté pour l'Iran. Avec une telle force maritime, vous pensez que donc l'Iran aura plus de possibilités de commercer, sanctions ou pas sanctions, avec des pays et des continents plus loin? Et donc permettre aux pays d'être intéressés par le marché iranien, par les ports comme Bandar Abbas qui existent déjà ou en Caspienne?
Là, il y a indiscutablement une volonté iranienne de sortir, entre guillemets, de ses frontières. J'ai eu l'occasion de l'exprimer, mais là, évidemment, comme le dit M. Michel, quand vous vous dotez d'une puissance maritime importante qui vous permet de vous projeter, évidemment, ça crée un sentiment de sécurité pour commercer et pour travailler. Mais il n'y a pas que cela. Il y a ce qu'on appelle les alliances stratégiques qui sont importantes, où l'Iran se projette vers l'Asie, vers l'Amérique latine, vers d'autres pays, vers l'Afrique. Et évidemment, la présence maritime lui permettrait non seulement de rassurer ses partenaires, mais en même temps de créer sa propre assurance, entre guillemets, pour protéger ses propres navires et ses propres déplacements. Parce que quand vous envoyez des pétroliers qui vont vers le Venezuela, c'est important de rassurer les Vénézuéliens que ce navire ne craint rien parce qu'il y a une force maritime qui l'accompagne. Je prends ça comme exemple, mais il y en a tant d'autres.
Merci, Maître André Chamy. Monsieur Gmuch, qu'est-ce que vous pensez maintenant avec le futur pour l'Iran, l'impact, parce que ça a été largement diffusé sur les chaînes iraniennes, des vidéos également, les marins ont été accueillis comme des héros. Est-ce que c'est derrière ça, il y a un message pour les autres pays, mais également pour les Iraniens qui ont vu il y a quelques mois de ça, il y a 6 mois de ça environ, une attaque à l'intérieur de leur territoire? Est-ce que ça permet de conforter également ceux qui veulent croire en l'avenir iranien et en l'avenir de la République islamique?
À l'extérieur, les ennemis d'Iran sont conscients du danger. Les États-Unis, par exemple, sont paniqués par le déploiement de l'Iran à l'entrée de l'Atlantique Nord et au large des côtes de l'Amérique latine. Mais il y a évidemment un renforcement de protection pour la population iranienne. Le temps où l'on saisissait les pétroliers iraniens un peu partout dans le monde, il est terminé.
Merci. On parle notamment des piratages qui ont également lieu aux alentours des mers d'Oman, pas très loin des côtes iraniennes. Maintenant, c'est presque fini, puisque souvent on entend parler des attaques et des retours de l'armée iranienne, de la marine iranienne sur le sujet. Maître André Chamy, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres perspectives à voir également de cette volonté d'accueillir en héros donc ces marins qui ont fait le tour du monde? Plusieurs navires sont en question. Ce n'était pas un seul navire qui a fait ce tour du monde-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a un message intérieur et un message extérieur à cette rentrée des héros?
Le message extérieur est beaucoup plus important parce que là, une présence est réelle, est garantie et a démontré une pérennité. C'est-à-dire que ça ne s'est pas passé sur 2 jours, ça ne s'est pas passé dans l'environnement direct, c'est-à-dire dans les mers limitrophes. C'est allé plus loin. Tous les océans pratiquement ont été franchis par la marine iranienne. C'est la démonstration et de la puissance et du courage, si j'ose dire, mais également de la persévérance dans la démarche. Et ça, c'est évidemment rassurant pour l'intérieur comme pour l'extérieur, et notamment les partenaires commerciaux, mais stratégiques, je reviens, parce que cette armée iranienne est au service d'une stratégie politique et d'une stratégie militaire, et c'est un exercice de souveraineté que personne ne pourra disputer.
Merci, Maître André Chamy. Monsieur Luc Michel, on sait qu'à chaque fois que l'Iran a présenté ses avancées technologiques, que ce soit d'un point de vue nucléaire, que ce soit d'un point de vue civil, je rajoute toujours civil, que ce soit d'un point de vue de l'armée, de la marine, des sanctions américaines s'en suivent. Est-ce qu'on devrait s'attendre à ce genre de sanctions de nouveau, vu que, par exemple, pour le niveau nucléaire, ce sont notamment des entreprises qui ont été visées, des personnes également ont été visées, afin de ne pas permettre l'achat de pièces à l'extérieur. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce genre de réaction de la part, notamment, des États-Unis?
Les Occidentaux vivent encore dans un monde qui est révolu. Le G7, par exemple, a menacé de sanctions la Chine, même la puissance chinoise. Donc, il faut s'y attendre, mais ces gens seront de plus en plus impuissants. L'alliance de Pékin, de Moscou et de Téhéran rend ces sanctions nulles et non avenues, sans parler des alliés en Amérique latine, au Proche-Orient, etc.
Merci, Monsieur Michel. Maître André Chamy, vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut s'attendre à une réponse négative des États-Unis, notamment par de nouvelles sanctions? Ils en inventent tous les jours. On pense que la liste est déjà suffisante, mais à chaque fois que l'Iran a montré une avancée, les sanctions, elles ont suivi. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre de réaction?
J'ai envie de dire, et alors? Puisque les sanctions sont là, il n'y a pas un seul pays au monde qui soit aussi sanctionné, pour ne pas dire plus sanctionné que l'Iran. Et ça a donné quoi? Ça a donné, au contraire, ça a donné une leçon pour les autres pays, c'est-à-dire les sanctions, ce n'est pas une contrainte, ça peut être tout simplement un challenge pour que les pays arrivent à se dépasser, arrivent à trouver des moyens pour sortir de cet encerclement. L'exemple russe, je dirais, est la parfaite démonstration de ce qui se passe. L'exemple chinois va le devenir également, parce que les menaces de sanctionner la Chine y répond en disant « bon, vous sanctionnez, je peux aussi utiliser des sanctions ». Et à ce moment-là, on va voir qui va plier les genoux le premier. Et aujourd'hui, si dans les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de ce qu'on a appelé sur le nucléaire iranien, on a essayé d'introduire les discussions sur les missiles iraniens, ce n'est pas pour rien, parce qu'on a compris que le déploiement de la puissance militaire, y compris sur le terrain des missiles, mais pas que, évidemment, va apporter à l'Iran des moyens supplémentaires afin de faire face aux défis qui lui sont posés. Et là, vous avez les sanctions d'un côté, mais vous avez les réponses. Et ces réponses ont démontré l'inefficacité réelle des sanctions et la capacité de l'Iran, au contraire, de trouver toujours des moyens de secours et des moyens pour contourner tout cela et faire face aux défis qui lui sont lancés sur le plan mondial et sur le plan intérieur, y compris économique, parce que la population en souffrait et en ressent aujourd'hui que c'est de moins en moins ressenti parce que justement les solutions de substitution ont été trouvées par le pouvoir iranien et par le génie, si j'ose dire, iranien.
Merci, Maître André Chami. Ce sont sur ces mots que nous finissons donc notre débat. Je remercie donc nos deux invités. Je rappelle Monsieur Luc Michel et Maître André Chami, nos experts du jour, concernant la marine et l'avancée de la marine iranienne. Je vous dis au revoir et à une prochaine fois pour un autre sujet du débat ici dans les studios de Presse TV. Au revoir.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Abu Hamed Mohammad ibn Mohammad Ghazali Tusi Nishaburi, connu en Occident sous le nom d'Al-Ghazal, est philosophe, théologien, logicien, juriste et mystique musulman d'origine iranienne. Selon des historiens musulmans, Al-Ghazali serait né en 1058 ou 1059 dans la ville de Tus, au nord-est de l'Iran. Il est une figure de proue de la pensée islamique. Surnommé Imam Ghazali, il considère que la tradition spirituelle de l'islam était en déclin à son époque et que les sciences spirituelles enseignées par la première génération des musulmans avaient été tombées aux oubliettes et cela lui a fait écrire son grand ouvrage intitulé « Ihya ul-Ulumuddin, la revivification des sciences de la religion » en français. Ghazali avait bénéficié d'une formation philosophique très avancée, si bien qu'il a écrit un essai intitulé « Maqasid al-Falasifa, les intentions des philosophes en français ». Dans cet ouvrage, il essaye de résumer la pensée de philosophes musulmans célèbres comme Al-Kindi, Farabi, en particulier celle du grand Avicenne. Désespéré dans sa recherche d'une ultime vérité philosophique, il s'oriente ensuite vers un mysticisme profond et commence à critiquer les philosophes, plus précisément les métaphysiciens. Il remet en cause particulièrement l'aristotélisme, dont Avicenne a été le plus éminent partisan en Iran. Ta'afut al-Falasafa, l'incohérence des philosophes en français, constitue un point culminant dans l'histoire de la philosophie, faisant avancer la critique de la science aristotélicienne développée plus tard dans l'Europe du XIVe siècle. Ghazali et son frère Ahmad reçoivent leur première éducation dans la ville de Tus. Quelque temps après, Ghazali se rend à l'école de Nizamia dans la ville de Nishabur, où Jovaini, le théologien le plus célèbre de l'époque, lui enseigne principalement le droit, mais aussi la théologie et des éléments de logique et de philosophie. Cela lui ouvre les portes de la cour de la dynastie des Seldjoukides. À la mort de ses maîtres Jouveini à Al-Farmadi en 1085, il rejoint le camp de Nezamulmulk, l'un des politiciens à la cour des Seldjoukides, avec qui il entretient des contacts étroits avec la cour de la roi de l'époque. Il y enseigne la jurisprudence fiqh chaféite. Il participait activement aux séances de débat tenues en présence de Nezamulmulk et discutait avec les savants. Il est devenu célèbre, Nezamulmulk l'a chargé d'enseigner à l'école Nezamia de Bagdad. À cette époque, il compose ses premiers livres des traités de droit musulman. Parmi ses étudiants, on compte Abu Bakr ibn Arabi. Il se plonge dans la lecture des philosophes, en particulier Farabi et Avicenne. Son livre « Marasid al-Falasafa » rend compte de sa recherche. Mais en 1095, il quitte soudain sa fonction, et ce alors même qu'il était sans doute l'intellectuel le plus influent de l'époque. Les idées de Razali en philosophie sont plus critiques. Dans ses œuvres philosophiques, tout en présentant un simple rapport sur les opinions des philosophes, il les critique avec une vision, un examen étroit. Razali avait une indépendance intellectuelle extraordinaire et s'est lancé dans une véritable lutte contre les philosophes aristotéliciens et platoniciens et les représentants musulmans tels que Farabi et Avicenne. Il a attaqué les philosophes à propos de 20 questions, y compris la question de la résurrection, en remettant en cause de nombreuses opinions des philosophes. Les différentes étapes de la vie de Razali sont directement liées à ses développements intellectuels. Dans une étape de sa vie, il décide de démissionner de l'enseignement et de tourner le dos à la richesse et à la renommée pour se tourner vers le soufisme, et cela définit son approche intellectuelle et philosophique. Il a procédé à critiquer les religions théologiques et les philosophies populaires de son temps. Razali est une figure unique dans l'histoire de la philosophie et de la théologie islamique. Son école et sa méthode parmi ses collègues sont les siennes. Contrairement à ses théologiens et philosophes contemporains ou avant lui, il ne s'est pas contenté de critiquer seulement quelques questions philosophiques et théologiques. Au contraire, il a construit une nouvelle fondation de philosophie et de théologie qui commence par des doutes sur les voies et les idées et conduit à une religion développée dans l'éthique, la philosophie et la théologie. Selon le philosophe et l'historien français Ernest Renan, Razali est le seul philosophe musulman qui a choisi une voie particulière dans sa pensée philosophique. Lorsque Razali décide d'étudier la traduction de la philosophie d'Aristote en arabe, il le fait de manière systématique et précise. En conséquence, il a divisé les sciences philosophiques en mathématiques, logique, sciences naturelles, politiques, éthiques et métaphysiques et les a étudiées sérieusement et en détail. De cette façon, il s'est rendu compte que les plus grandes erreurs de philosophes divins se trouvent dans les opinions métaphysiques qui, contrairement aux sciences mathématiques et naturelles, ne reposent pas sur un raisonnement défini et une expérience prouvée. Au contraire, il est basé sur des doutes. Razali a devancé ses contemporains dans les méthodes et opinions philosophiques théologiques et a inventé de nouvelles théories qui ont été inspirées par les philosophes ultérieurs des Lumières européennes quelques siècles après lui. Parmi ces questions, on peut souligner les doutes sur les données des sens et la question de la causalité. Razali doute aussi de la raison. Il a connu une première crise plutôt intellectuelle qui l'amenait au doute et au scepticisme. Ses observations lui montrent que la raison peut corriger les erreurs des sens. Mais peut-on faire pleinement confiance à la raison elle-même, se demande-t-il. Razali se réfugie dans les principes premiers de la raison, vérité a priori, mais ceux-ci ne sont pas à l'abri du doute. si bien que Razali voit la possibilité d'une suite sans fin de perceptions jugées fausses par un arbitre de la vérité encore inconnue. C'est finalement, écrit-il dans son autobiographique, une lumière que Dieu a projetée dans son cœur et non la raison qui lui permettront de sortir de cette crise. Le philosophe français René Descartes n'a pas admis directement ou indirectement être influencé par des penseurs musulmans. Mais il est très difficile d'admettre qu'il ignorait complètement la position philosophique de Razali et n'était pas influencé par ses opinions. Tous deux ont commencé leur réflexion philosophique en étudiant leur propre âme. Tous deux parlent de leur vie et de leur évolution intellectuelle dans leurs livres et ils pensent que leurs opinions sont issues de leurs opinions traditionnelles et héritées et non des paroles de philosophes. Les livres des deux penseurs partent d'un scepticisme radical pour fonder la possibilité même de la connaissance humaine à travers un exposé critique de la fiabilité des sens, un doute à l'égard de la fiabilité de la raison.